franceinter.fr.
Carnet de campagne, bonjour. Ce dernier carnet de la semaine se partage comme hier entre des initiatives du département de la Manche et le second volet du dossier migrant, la grande mobilisation avec l'hebdomadaire La Vie. Cette fois, notre confrère Laurent Gibowski nous conduira vers l'antenne française de la communauté Saint-Égidio avec Vincent Picard. Auparavant, nous prendrons le large vers les îles Chausey avec Elisabeth Nodino qui prépare un gros recueil de paroles d'Iliens, anciens ou nouveaux, porteurs de la mémoire et de l'avenir de cet archipel. Autre site d'exception dans la Manche, l'île Tatihou, à 2 km de Saint-Vaast-la-Hougue, qui devient presqu'île à marée basse. Tatihou, 28 hectares de nature et d'architecture inscrite au patrimoine mondial par l'UNESCO, comme ses tours Vauban. Et depuis 23 ans, Tatihou est aussi le territoire d'un festival musical qui veut être en lien avec les grandes marées et la nature, les traversées Tatihou Festival des musiques au large. Du 14 au 26 août, le festival apporte sa vague d'artistes, en premier Charlie-Lee Couture, ensuite des hommages chantés aux voix de femmes, des musiques celtiques, des musiques d'Afrique et des Caraïbes, ou encore des nuits électro. Le programme complet à la page Facebook du festival ou sur le site départemental de la Manche, et vous allez trouver ces liens à nos pages d'émission.
France Inter. Carnet de campagne, Philippe Bertrand.
Elisabeth Nodino, bonjour.
Bonjour Philippe.
Elisabeth, vous faites un remarquable travail actuellement de recueil de paroles d'Iliens, alors des Iliens particuliers, ce sont ceux de l'archipel de Chausey. C'est un lieu idyllique, 400 îles à marée basse, à quelques kilomètres, 17 kilomètres au large de Granville, hein, très exactement. Comme Arnaud Guigny nous l'a dit, merci Arnaud d'ailleurs pour ses courriers, parce qu'il fait partie du Conservatoire du Littoral. Et le travail que vous êtes en train de réaliser, Mémoire d'Iliens, est justement soutenu par ce conservatoire.
Oui, tout à fait. On est parti d'un constat que les habitants de Chausey, ceux qui ont fréquenté l'école, qui ont fréquenté la chapelle, l'épicerie, l'hôtel, enfin ceux qui sont restés sur l'île, qui ont vécu tout ça, commençaient à vieillir.
Oui.
Et on voulait pas laisser échapper cette mémoire-là qui est aussi le socle de ce qu'est Chausey aujourd'hui.
Oui.
D'où ce travail de collectage de mémoire de ces témoins, parce que faut dire qu'ils sont quand même, ils ont un trésor en eux et qu'on trouvait que c'était très important qu'ils nous le transmettent et qu'on puisse le transmettre aux nouvelles générations.
Ouais. Mais ont-ils vraiment envie tous de le transmettre et de le partager, ce patrimoine ?
Oui, ils ont envie parce que ce lieu-là, ils l'adorent. Ils sont passionnés par leur travail, en tout cas les pêcheurs, et ils ont tous un attachement viscéral à cette île, à cet archipel, et c'est vraiment très touchant et émouvant de les entendre parler de ça.
C'est quoi l'avenir de la principale île, la grande île habitée de l'archipel ?
Alors c'est vraiment en pleine mutation. Ce qui est important aussi, c'est que c'est un avenir plutôt optimiste parce que des jeunes pêcheurs viennent de s'installer, aidés par le Conservatoire du Littoral. Et donc, ils sont trois à s'être installés et pratiquent la pêche traditionnelle de Chausey, c'est-à-dire que ce sont des caseilleurs qui pêchent le homard
bleu.
Donc voilà, c'est en pleine mutation et c'est important que ces jeunes s'installent et puissent vivre de leur métier.
Est-ce que l'objectif du livre, alors c'est un projet d'une année porté par l'association Le Vent Coulis, hein, association
oui.
culturelle artistique manchoise. Vous avez cité le Conservatoire du Littoral, la mairie de Granville et puis le département de la Manche qui participent aussi à cette opération. C'est d'éviter que ces îles, et surtout l'île habitée, deviennent une sorte de musée.
Ça, surtout faire connaître aux... Alors, il y a beaucoup de visiteurs qui viennent l'été,
oui.
qui font un tour de l'île et qui repartent. Et c'est important de savoir que c'est pas qu'un beau lieu, c'est aussi un endroit où les gens ont travaillé, où les gens ont vécu, et je trouve important de savoir que ça a été comme ça, parce qu'on a, on a plein de leçons de vie sur en les écoutant, les anciens qui nous parlent, les anciens et les plus jeunes qui nous parlent de cette île. C'est-à-dire que c'est quand même des gens qui ont vécu presque en autarcie. Oui. Donc il y a toute une leçon d'écologie, de manière de vivre, de sobriété. C'est vraiment passionnant. Et je pense que faut que les gens connaissent ça, parce que c'est comme ça qu'on respecte aussi les lieux quand on a une connaissance profonde.
Archipel de Chausey, mémoire d'Iliens, devrait paraître l'année prochaine.
Alors les valorisations de ce travail, ça sera pour 2018 et sous deux formes, dont un livre et surtout une exposition. Photos et textes, une expo qui tournera d'abord sur l'île, c'est normal que ce soit là
bien sûr.
Premier, et après dans toutes les communes qui voudront bien nous accueillir dans la baie du Mont-Saint-Michel.
Les îles Chausey, cet archipel qui est un véritable paradis. Le site de l'association Le Vent Coulis, c'est levencoulis.overblog.com, et puis évidemment vous aurez les informations concernant la prochaine parution, enfin il faudra attendre un tout petit peu, du livre. Merci Elisabeth.
Merci Philippe.
Et puis j'ai oublié de dire, 3 et 4 se rejoignent dans peu de temps le Festival de Contes sur l'île Chausey.
Exactement, oui, c'est un beau rendez-vous, il faut venir nombreux.
Oui, avec plaisir. Merci Elisabeth.
Merci Philippe, au revoir.
Née en 1994, l'association Arsor, A-R-S-O-R, voulait sortir justement l'art des murs, loin des institutions, en marge des habitudes d'exposition, pour placer la création dans d'autres cadres, la poste par exemple, ou au supermarché, comme ça a été le cas. Arsor, c'était cela, une galerie mobile pour sortir l'art, non pas comme on sort son chien, mais comme un gage de liberté, pas de subvention, pas de directive soumise ou de soumission à une direction imposée. Finalement, Arsor a abandonné le transport de malles de pièces d'art contemporain dans les lieux publics pour se poser enfin dans un cube. Le cube, un vrai au mur blanc de 5 mètres sur 5, un ancien pressoir qui avait perdu son jus. Loin encore une fois des décideurs, dans un lieu dit les Bouillons, à Orval-sur-Sienne, d'où l'idée de Bouillon Cube. L'initiateur s'appelle André, on n'en sait pas plus sur son identité, mais peu importe. Seule chose certaine, c'est que le dit pressoir fut son atelier d'artiste. Ouvert les dimanches, le cube peut aussi se visiter à d'autres périodes de la semaine sur demande. C'est une démarche unitaire et convaincante à cet endroit, à savoir il y a un lieu, une pièce, un artiste, et autour des rencontres potentielles, des performances sonores et des surprises du maître des Bouillons qui n'est jamais à court. Bouillons, of course. Vous avez deux liens avec l'association et également avec la page Facebook. Nous accueillons notre confrère Laurent Gibowski. Bonjour Laurent.
Bonjour.
Laurent, notre confrère de la vie hebdomadaire avec lequel nous partageons pendant une semaine le dossier Migrants 1000 et une manière d'être bénévole. Aujourd'hui, il sera question d'insertion et de formation professionnelle.
Oui, à travers une communauté catholique internationale qui s'appelle Sant'Egidio, qui est connue aussi pour son engagement diplomatique, qui a beaucoup travaillé à la résolution de certains conflits à travers le monde, et qui travaille aussi auprès des plus pauvres. Et parmi ces personnes en précarité, Sant'Egidio a été amené, d'abord en Italie, puis en France, à œuvrer de près auprès des migrants, et auprès des personnes en situation de difficulté d'insertion. Et alors en France, ce qui est très intéressant, c'est qu'elle a, à travers l'accueil de ces migrants, elle les a intégrés dans le bénévolat qu'elle accomplit auprès des personnes âgées, donc en termes de service à la personne. Et ce bénévolat-là permet aux migrants non seulement d'avoir une utilité, un rôle social dans notre pays, en allant visiter des personnes âgées isolées, mais aussi d'acquérir des compétences professionnelles. Et Sant'Egidio s'est mis en rapport avec une autre association qui permet de transformer, je dirais, professionnellement cet acquis, ce bénévolat de compétences. Et je trouve que c'est assez remarquable parce que ça montre aussi, à travers cette expérience, comment le bénévolat est souvent une porte d'entrée pour l'insertion, pour l'intégration, et particulièrement pour les personnes réfugiées.
Vincent Picard, bonjour.
Bonjour Philippe.
Vincent, bénévole à Santé Gidio, association donc, comme on l'a dit, créée en Italie en 1968, présente dans 70 pays. Vous nous avez envoyé des précisions sur l'action de la communauté en disant « Nous apportons la chose qui manque le plus à toute personne qui arrive comme réfugié, c'est l'amitié ».
Oui, tout à fait. Ça, c'est vraiment des années d'expérience au contact des réfugiés qui nous ont appris ça. Il leur manque beaucoup de choses, beaucoup de solutions, le travail, quelquefois les papiers. Mais ce qui leur manque surtout, c'est l'amitié, c'est-à-dire tout un réseau de relations et au moins une personne qui compte pour eux et qui puisse toujours répondre à leurs attentes, à leurs besoins, qui soit un lien. Quoi. C'est ça vraiment qui leur manque.
Ouais. Et pour que l'amitié se tisse, il faut un lieu, il faut un espace et il faut du temps. Est-ce que vous disposez de tout cela?
Alors on a des lieux partout où Santé Gidio est présent. Personnellement, je suis sur Paris et là on a vraiment une activité importante. On a un lieu à Montparnasse, près de la gare, chapelle Saint-Bernard de Montparnasse. Et puis on a tout un réseau de personnes qui viennent, des réfugiés, mais aussi des personnes, des bénévoles,
oui.
Des personnes qui veulent aider.
Qu'est-ce qui vous a poussé à être bénévole à Santé Gidio?
C'est toujours une sorte de révolte devant des injustices, devant même de honte quelquefois devant ce qui se passe. Quand on voit la situation des réfugiés aujourd'hui, avec les drames en Méditerranée par exemple, mais pas que, aussi dans le désert libyen. Et quand on voit comment arrivent ces gens, je pense à tous les jeunes africains qui aujourd'hui arrivent à Paris, qui ont vécu des traumatismes, on se dit qu'il faut faire quelque chose.
Alors on a évoqué différents palier d'accueil avec la langue, les cours qui sont donnés, les cours de français qui sont donnés aux personnes extérieures, personnes migrantes, et puis aussi l'insertion professionnelle. Et alors vous, vous êtes porteur à Santé Gidio d'une expérience qui est quand même rare, j'imagine encore, puisque vous avez passé un accord avec Altidom, qui est une association de maintien à domicile des personnes âgées. Autrement dit, ce sont des personnes migrantes qui font le premier pas d'insertion professionnelle en rendant service aux personnes âgées.
En fait, on s'est rendu compte de plusieurs choses. La première chose, c'est que toutes ces entreprises, ces groupes d'aide à domicile qui organisent des soutiens aux personnes âgées qui sont chez elles, aux personnes malades, sont à la recherche de main-d'œuvre et ont du mal à trouver du personnel. Et puis, on s'est rendu compte que, eh bien, entre les réfugiés et les personnes âgées, par exemple, eh bien, les relations sont souvent très faciles, très, très belles. Et que tout le travail de rencontres qu'on mène, les amitiés qu'on tisse, eh bien, sont comme une préparation professionnelle pour ces jeunes qui découvrent des personnes âgées, qui vont à travers nos services, nos activités, faire des sorties culturelles ensemble, on organise même des séjours de vacances l'été où on a des réfugiés et des personnes âgées ensemble. Donc, on présente vous avez parlé d'Altidom, cette société avec qui qui est la première avec qui on a proposé de travailler. On leur présente des réfugiés à l'embauche, en entretien, en vraie situation, mais qu'on a préparé de cette manière-là, qu'on accompagne. Évidemment, tout le monde n'a pas vocation à travailler dans ce secteur, mais certains, oui, on s'en rend compte. Alors après, il y a toujours des écueils aussi à lever, les difficultés administratives pour être embauché, faut l'autorisation de travail, etc.
Bien sûr.
Mais le plus grand écueil, c'est de pouvoir rencontrer l'employeur qui a envie de nous embaucher. C'est ça qu'on arrive à faire.
Alors c'est très intergénérationnel, multiculturel, solidaire, généreux et professionnalisant. On a toutes les qualités dans cette démarche entre Altidom et Santé Gidio. Vous allez avoir les liens évidemment avec les associations à nos pages d'émission. Merci beaucoup Vincent.
Merci Philippe, merci beaucoup à vous pour votre émission et votre invitation à en parler.
Merci et continuez, merci. Depuis hier, nous avons reçu beaucoup de courriers concernant les actions de solidarité à l'égard des migrants, en nous remerciant au passage de traiter de ce dossier. Exemple, hier, dans la Manche, puisque nous y étions déjà à Cherbourg, la presse de la Manche relatait, c'est Nolwenn qui nous le rapporte, le cas d'une responsable de la communauté Emmaüs de Cherbourg qui est convoquée par la police des airs et des frontières pour avoir hébergé et accueilli deux ressortissants marocains et sénégalais au sein de la communauté, en sachant pourtant que les compagnons d'Emmaüs ne sont ni employés ni salariés. Donc convocation le 12 juin et de nombreuses communautés sont solidaires de cette action. Merci à Juliette Gou qui réalisait et qui réalise les carnets, à Joël Levert qui leur donne du contenu, aux techniciens et techniciennes de France Inter qui leur apportent du relief, comme aujourd'hui Julien Dumont.